Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h30, ici à Paris 18h30, à Abidjan et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et votre session d'infos se poursuit. Je passe la balle à présent à Zéphirin Quadio pour la première édition d'Afrique Soir de ce lundi. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une, en Côte d'Ivoire, la justice apporte des précisions sur la radiation la semaine dernière de Tidiane Thiam de la liste électorale. Par cette décision de justice, le chef du principal parti d'opposition est exclu de la course à la présidentielle. L'opposant dénonce un déni de justice. Et puis au Mali, la future charte des partis politiques officiellement en phase de relecture. Objectif, réduire le nombre de partis et d'encadrer les financements. La classe politique dénonce depuis plusieurs semaines une mise en scène destinée à la faire disparaître. En République démocratique du Congo, vague de critiques de l'opposition sur la déclaration d'intention signée vendredi par Kigali et Kinshasa. Cette déclaration, sous l'égide des États-Unis, doit aboutir à un accord de paix qui vise, nous dit-on, à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs. Oui, en Côte d'Ivoire, une semaine après avoir ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, un responsable du ministère de la Justice a rencontré la presse lundi matin. Une rencontre pour éclairer l'opinion publique sur cette décision de justice. L'occasion notamment de clarifier en détail, Tidiane Thiam n'est pas apatride. Les explications de Binta Diagne.
Selon Augustin Kwame, le directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice, le tribunal a considéré que Tidiane Thiam a acquis la nationalité ivoirienne par filiation. Au cours de la procédure, les avocats de Tidiane Thiam ont tenté de prouver à l'inverse que leur client est né binational, français et ivoirien, mais les documents présentés n'ont pas convaincu la juge qui les a écartés. Dans ses motivations, la juge estime qu'en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité, Tidiane Thiam a perdu la nationalité en 1987 au moment où il a été naturalisé français par décret. Pour la juge, Tidiane Thiam n'était plus ivoirien au moment où il s'est enrôlé en 2022. Était-il apatride ? Non, rétorque Augustin Kwame, car étant ivoirien par filiation, il retrouve sa nationalité ivoirienne qu'il avait volontairement mis en hibernation. Fin de citation. Pas besoin de décret pour réintégrer la nationalité ivoirienne, poursuit ce responsable. Tidiane Thiam n'est pas apatride. Face à la presse, ses avocats ont annoncé le dépôt d'un recours pour faire annuler la décision prononcée la semaine dernière, car celle-ci n'aurait, selon eux, pas été communiquée au ministère public. Cette décision n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet, souligne Maître Luc Adjé. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Mali, les forces vives se penchent sur la relecture de la charte des partis politiques. La phase nationale des consultations sur l'avenir des partis s'est ouverte donc ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Les légitimités traditionnelles ou religieuses, ainsi que les Maliens établis à l'extérieur, sont invités à formuler des propositions pour réduire le nombre des partis politiques et encadrer leur financement. Mais la classe politique dénonce depuis plusieurs semaines déjà une mise en scène destinée à la faire disparaître. Explication, David Baché.
Les autorités de transition n'ont publié aucun document sur l'organisation de ces consultations, sur la sélection des forces vives qui ont été invitées. Il y a une dizaine de jours, les consultations en région ont déjà fait émerger une proposition phare, la dissolution pure et simple de tous les partis, pour les remplacer par deux ou trois nouvelles formations. Exactement ce que redoutait et annonçait déjà, avant même que les consultations commencent, la centaine de partis réunis au sein de l'initiative des partis politiques pour la charte. L'IPAC, qui regroupe la totalité des formations historiques et représentatives du pays, avait elle-même transmis le mois dernier ses propres propositions pour réduire le nombre pléthorique de partis existants et pour encadrer leur financement afin de mettre un terme aux abus. Des objectifs communs donc aux autorités de transition, à la classe politique et à l'ensemble des Maliens qui les avaient déjà formulés lors des assises nationales de la refondation, sans parler de dissolution. Aujourd'hui, les défenseurs des acquis démocratiques de 1991, année de la chute de la dictature militaire du général Moussa Traoré, estime que ces nouvelles consultations voulues par les autorités de transition visent à mettre un terme au multipartisme, pourtant garanti par la Constitution. Les travaux doivent se conclure demain.
Explication signée David Baché. Au Nigeria, au moins 10 membres d'un groupe d'autodéfense ont été tués dans le nord-est. Selon le responsable d'Amnesty International Nigeria, les faits se sont déroulés tard samedi soir. Les auteurs de la tuerie ont tendu une embuscade à ce groupe d'autodéfense en patrouille dans un village de l'état d'Anamara, près de la frontière avec l'état de Borno, berceau et bastion de Boko Haram. En République démocratique du Congo, la déclaration d'intention signée vendredi dernier par Kigali et Kinshasa en vue d'un accord de paix suscite de nombreuses critiques au sein de l'opposition politique. Cette déclaration, sous l'égide des États-Unis, doit aboutir à un accord de paix qui, nous dit-on, vise à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs. Des discussions sur la façon de créer une chaîne de valeur économique entre le Rwanda, la RDC et le secteur privé américain sont notamment prévues, mais l'opposition craint que cet accord ne soit motivé par des considérations économiques au détriment de l'intérêt des Congolais. On fait le point avec Alexandra Branjon.
Dans un communiqué, les opposants Sef Kikuni et Claudel Lubaya, tout en reconnaissant l'importance des initiatives diplomatiques pour la paix, dénoncent l'opacité des négociations de Doha et Washington et la priorité donnée à des considérations économiques. Félix Tshisekedi a accepté d'hypothéquer les minerais du Congo, réagit de son côté la coalition d'opposition Lamuka. Le mouvement de Martin Fayulu craint qu'avec cet accord poussé par les États-Unis, toutes les sociétés américaines ne s'installent au Rwanda, créant des emplois et que la RDC ne soit qu'un trou où l'on extrait les matières premières, ajoute son porte-parole Prince Epengue. Une inquiétude partagée par le PPRD de Joseph Kabila pour qui le chef de l'État cède les mines congolaises à son voisin rwandais, un acte de pillage appuyé par les États-Unis sous couvert de paix, déplore le secrétaire permanent du parti Ferdinand Kambere. D'autres formations, comme le mouvement radical pour le changement de Frank Diongo, appellent à l'ouverture d'un véritable dialogue régional, incluant tous les pays voisins, y compris le Rwanda.
Et rappelons que cette déclaration a suscité beaucoup d'espoir sur la fin du cycle de violence qui embrase la région depuis plusieurs décennies. Espoir mais également prudence, les précédents engagements ayant à chaque fois échoué. Alors cette nouvelle initiative portée par les États-Unis a-t-elle plus de chances que les précédentes? Réponse de Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de RDC, au micro de Nicolas Sue.
Je dirais beaucoup plus de raisons d'y croire, parce que le fait que les États-Unis soient devant, alors qu'on avait auparavant des acteurs régionaux qui ont eu du mal à exercer une certaine pression sur les différentes parties prenantes, je crois qu'a beaucoup déterminé dans les avancées. Donc on peut supposer que cette présence américaine était à la fois une forme de gage, ou tout du moins de moyen de pression pour que les différentes parties prenantes arrivent à aboutir à un processus de paix plus ou moins stable.
Mais quel est l'intérêt pour le Congo et le Rwanda de faire des concessions pour le Congo? Est-ce l'incapacité à reprendre le terrain perdu?
Je crois que pour le Congo, c'est à la fois la nécessité de trouver pour Kinshasa une issue diplomatique à la guerre. Les réalités souterraines n'étant pas favorables, les dernières victoires d'il y a 23 ont réduit suffisamment les capacités de Kinshasa de répondre souterrain. Et donc, la solution diplomatique était la voie la plus naturelle après l'échec des options militaires. Donc, Kinshasa a besoin d'un accord de paix pour arrêter les velléités du 1-23. Donc, une solution diplomatique était l'option la plus réalisable pour maintenir une forme d'équilibre.
Et pour le Rwanda, les sanctions adoptées par la communauté internationale ont pesé, selon vous?
En partie, oui, parce que Kigali, qui refusait de venir à la table, on l'a vu à deux reprises pratiquement aborder les négociations de Luanda, a été contraint par les sanctions, par le fait que Kigali tient quand même à son image, à la perception que l'international a sur son pays, a poussé Kigali à venir sur la table. Mais également, c'est le fait que le projet de New Deal que les Américains portent, qui au départ était proposé pour le Congo, pour une logique de protéger Kinshasa des velléités rwandaises, aujourd'hui a été presque élargi à Kigali, et donc la de faire des affaires pour faire la paix et peut-être un schéma qui répond également aux préoccupations indirectes du Rwanda.
À quelles conditions les Américains s'engageront-ils selon vous?
À quelles conditions? Je crois qu'à ce stade, les Américains ont toujours voulu avoir une sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Et donc, ils ont besoin d'avoir une sécurisation sans conflit des chaînes d'approvisionnement vers les minerais stratégiques. Et donc, un minimum de stabilité est nécessaire. Et donc, ils ne peuvent s'engager que s'il y a à la base un minimum de stabilité. C'est pour ça qu'il faut cesser le feu. C'est pour ça qu'il faut réchauffer les relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda et garantir la venue des investissements privés. Après, probablement, il y aura des exigences en termes de réformes, en termes de lutte contre la corruption, en termes de climat d'affaires, en termes de garantie d'investissement. Il y aura des préalables. Nous sommes qu'à, je dirais, au premier pas d'un long processus qui peut être laborieux.
Voilà, Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de RDC au micro de Nicolas Sure. Le président du Conseil souverain du Soudan et le chef de l'armée soudanaise en déplacement en Égypte. Les deux dirigeants ont été reçus par le chef de l'État égyptien ce lundi au Caire. Objectif de cette visite officielle, décrite comme stratégique, des échanges sur plusieurs dossiers bilatéraux et régionaux. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence égyptienne. La stabilité et la reconstruction du Soudan, ainsi que la sécurité nationale des deux pays, étaient au cœur de ce déplacement qui intervient à un moment important pour le Soudan. Explication, Ouda Ibrahim.
C'est la première visite du général Al-Burhan au Caire après la défaite infligée aux paramilitaires des forces de soutien rapide depuis le début de l'année à Khartoum et dans d'autres états importants. Elle intervient au moment où les menaces des FSR d'attaquer l'état du nord du Soudan se multiplient. Cet état est situé à la frontière sud de l'Égypte qui demeure profondément inquiète pour sa sécurité. Les discussions ont donc porté sur la sécurité de cette zone, mais aussi sur la coopération sécuritaire plus globalement. Les deux pays sont sous pression de Washington en mer Rouge. Le président Trump a exigé de l'Égypte qu'elle laisse passer gratuitement les navires militaires et commerciaux américains par le canal de Suez. Quant au Soudan, les États-Unis tentent de l'empêcher d'autoriser les Russes et les Iraniens d'installer des bases militaires maritimes. Autre dossier, l'Égypte se propose d'aider à la reconstruction des régions qui sont sous le contrôle de l'armée. Ces entreprises se positionnent déjà au niveau des infrastructures et de l'aide logistique.
Ouda Ibrahim, et puis selon le réseau des médecins soudanais, au moins 31 civils, dont des enfants, ont été exécutés par les FSR à Salah, à l'ouest d'Omdurman. Exécution filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par les FSR. Et puis toujours à propos du Soudan, RFI diffuse cette semaine des reportages de retour de Khartoum, un reportage signé Gaël Lalex, premier épisode à retrouver sur RFI.fr. Retour à présent sur le limogeage hier du ministre namibien de l'Agriculture, Mac Albert Angari, est au centre d'une enquête pour viol sur mineurs. Les faits remontent à 2019. Le ministre a été arrêté dimanche. Retour sur l'affaire avec Willy Diallo.
La victime était une jeune fille de 16 ans, selon le porte-parole de la police namibienne. Les faits datent de 2019 et l'enquête est ouverte depuis novembre 2024. Le communiqué de la présidence, publié ce dimanche, annonce que le licenciement prend effet le mercredi 23 avril, date à laquelle Marc-Albert Angari aurait dû présenter sa démission. Il est licencié de son poste de ministre, mais aussi de celui de député de l'Assemblée nationale. Lors de sa nomination par la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah au mois de mars, l'opposition avait déjà émis des critiques sur ce choix. Et finalement, il n'aura gardé son poste que le temps d'un mois. Après l'annonce de son arrestation, la principale formation d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, s'est dite profondément troublée. Ils ont dénoncé un scandale qui, je cite, « démontre la vacuité rhétorique gouvernementale sur les violences de genre ». Marc Angari restera en détention provisoire jusqu'au début de son procès le 3 juin. En plus des accusations de viol et de corruption, l'ancien ministre aurait obligé sa victime à avorter. Il pourrait donc être poursuivi pour avortement forcé. Une accusation d'autant plus lourde que l'avortement est illégal en Namibie.
Récit signé Willy Diallo. En France, le Sénat enclenche le processus de restitution définitive du tambour parleur de la communauté Hatchan, confisqué depuis 1916 par la France et bientôt rendu donc à la Côte d'Ivoire. Ce lundi, la Chambre haute du Parlement français a adopté effectivement à l'unanimité en première lecture une proposition de loi pour la restitution de Didi Ayokwe. Le sénateur Max Brisson est rapporteur du texte de loi, joint par Victorien Willaume. Il salue une étape importante qui va permettre aux Ivoiriens de récupérer la pleine propriété du tambour.
La ministre Rachida Dati et sa collègue ivoirienne Françoise Remarque ont déjà signé une convention de dépôt, ce qui permet à la France de transférer le tambour en Côte d'Ivoire pour qu'il soit installé dans le musée des civilisations ivoiriennes d'Abidjan. Mais il manquait, tout simplement, par une sorte de négligence au niveau des autorités françaises, les textes de loi qui permettent de sortir ce tambour des collections françaises et d'en donner la pleine propriété à la République de Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens seront sensibles à récupérer en même temps le titre de pleine propriété sur le tambour.
Voilà, propos recueillis par Victorien Guillaume. Rappelons que dès 2019, la Côte d'Ivoire avait demandé le rapatriement de cet objet rituel. Ce bien culturel a déjà fait l'objet en 2022 d'une cérémonie de désacralisation préalable aux travaux de restauration de ce tambour parleur sous l'égide du musée du Quai Branly à Paris. En parallèle, les autorités ivoiriennes ont engagé d'importants investissements pour permettre au musée des civilisations d'Abidjan d'accueillir le tambour. La 20e édition du Tour du Bénin s'est élancée ce matin depuis le nord du pays. La première étape ralliait Niki à Parakou sur 120 km et c'est l'un des favoris de l'épreuve qui s'est imposé en solitaire, Reinhard Jans van Rensburg. Le Sud-Africain a devancé de 19 secondes le Marocain Kamal Maroug, juste devant le Néerlandais Tom Vischfeu et le Camerounais Clovis Kamsong à Bosolo. Reinhard Jans van Rensburg, 36 ans, professionnel depuis 2010, ravi au micro d'Olivier Pron après cette excellente première journée de course.
Oui, ça a été assez dur avec des attaques toute la journée. Ça n'a pas arrêté. La première échappée n'a jamais eu plus de 50 secondes d'avance. Et elle a été plutôt bien contrôlée, même s'il faisait très chaud. Ça allait quand même assez vite. J'ai attendu le bon moment. Et puis, il y a eu cette possibilité de partir à 10. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que le groupe travaille bien tous ensemble. À 8 km de l'arrivée, je me suis dit qu'il était temps d'y aller. Un Marocain est parti avec moi. On a essayé de collaborer pour faire l'écart ensemble. Et puis, à 2 km, je suis parti tout seul. Je suis vraiment content. C'est un très bon résultat pour l'équipe. Nous sommes deux dans le top 10, donc c'est vraiment un très bon jour.
Propos recueillis par Olivier Pron. En football maintenant, l'Olympique de Marseille et le gouvernement ivoirien renforcent leur partenariat pour 3 années supplémentaires. Il s'étend désormais jusqu'en 2030 dans le cadre de Sublime Côte d'Ivoire, programme national de développement touristique. L'annonce a été faite hier soir en marge de la victoire de l'OM face à Brest en Ligue 1 avec la présentation de projets liant le club français et le football ivoirien. Des matchs de gala devraient prochainement, nous dit-on, avoir lieu à Abidjan et en centre de formation doit voir le jour sous la houlette de formateurs phocéens, des initiatives qui rendent le partenariat gagnant-gagnant selon Siandou Fofana, ministre ivoirien du tourisme. Il est au micro de Bruno Blanza.
Ça va au-delà d'un partenariat classique parce que 15 joueurs ivoiriens sont passés par ici et forcément ça crée des liens. Il y aura un centre de formation qui sera ouvert en Côte d'Ivoire et à l'issue de ces formations, il va avoir des moments choisis pour venir ici en immersion pour que demain l'équipe nationale tire profit de cette formation. Dans la discussion, il s'est agi de 3 aspects. Il va s'agir principalement de préparation en terre ivoirienne au regard des installations que nous avons pu réaliser pour abriter la dernière CAN et qui sont des équipements aux normes FIFA. Il va sans dire aussi que nous voulons qu'il y ait des matchs de gala à la fin de la saison avant que les joueurs ne se dispersent avec des anciennes gloires en terre ivoirienne. Et troisièmement, il va s'agir de faire le recueil de fonds par des matchs de gala pour aller sur le volet social dans lequel on doit s'investir désormais mutuellement.
Le ministre ivoirien du tourisme au micro de Bruno Blanza.
Et il est 20h48 ici à Paris avant de retrouver la seconde partie d'Afrique Soir, un point sur l'actualité internationale de ce lundi. Et l'Espagne confrontée à une panne d'électricité géante qui a également touché le Portugal. Conséquences multiples, conséquences dans les transports, les avions, les trains, les métros se sont retrouvés à l'arrêt, perturbations et grosse confusion dans le pays tout entier. La cause de cette situation pour le moment est inconnue, mais l'électricité revient progressivement. Ce soir, elle est rétablie à hauteur de 20% selon le gestionnaire du réseau espagnol. Au Canada, c'est jour de vote des élections législatives anticipées qui ont lieu ce lundi. Il y a 2 candidats qui se détachent dans les sondages. Le libéral et actuel Premier ministre Marc Carney et le chef des conservateurs Pierre Poilievre. Un scrutin sous la pression de Donald Trump. Ce lundi, le président américain a réitéré sur son réseau social sa volonté d'annexer le Canada. Pierre Poilievre lui a répondu en lui demandant de ne pas se mêler des élections. Et puis on connaît la date du début du conclave qui sera chargé d'élire le nouveau pape suite au décès de François. Ce sera à partir du 7 mai prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le Vatican à l'issue d'une 5e congrégation générale. C'est une réunion préparatoire privée. Allez, 18h49 en temps universel, Zéphirin Quadio, on part à présent à Accra, la capitale du Ghana.
Oui, alors que la saison des pluies approche, ce sont 5 millions d'habitants qui se mettent à craindre une montée incontrôlée des eaux. Face à ces débordements, dû notamment à un urbanisme inadapté et à une mauvaise gestion des déchets, le gouvernement a mis en place des plans d'action, mais pas sûr que cela suffise. À Accra, le reportage de Victor Cario.
En cette fin de mois d'avril, la saison des pluies commence à se faire sentir au Ghana. Avec l'arrivée des premières averses, ce sont également de mauvais souvenirs qui émergent.
La situation devient très mauvaise ici quand il y a beaucoup de pluie. Tout est plein de boue et de saleté.
Gilbert Opoku, 40 ans, vit depuis une dizaine d'années à Adabraka, l'un des quartiers de la capitale les plus exposés aux inondations.
Ce n'est pas une situation normale. Les gens doivent quitter leur maison pour aller dans la rue. Ils n'ont même plus de vêtements. Ça ramène des moustiques et plein d'autres maladies. Le gouvernement ne fait pas assez pour nous aider.
Lui, comme l'ensemble des habitants d'Adabraka, garde tous en tête les inondations de 2015 où plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, le gouvernement ghanéen lance en 2020 le projet de développement intégré et résilient du Grand Accra, ou GARID, un chantier titanesque financé par la Banque mondiale à hauteur de 350 millions de dollars. Kwadwo Ohine Sarfo, coordinateur du projet, explique l'ampleur de la tâche.
Nous intervenons sur environ 13 ou 14 projets. Il s'agit de réorienter certains canaux, de doubler leur volume, d'augmenter leur débit et leur profondeur. L'un des points les plus importants est de s'assurer d'avoir un programme de dragage cohérent.
Le projet GARID prévoit également de s'attaquer à la gestion des déchets, essentiels pour éviter tout engorgement des canaux d'évacuation. Les travaux souffrent cependant d'importants retards, en cause des habitations illégales qu'il faudrait détruire. Une situation délicate selon le coordinateur du projet.
Ces gens vivent à la marge car ils n'ont pas les moyens de posséder une terre. Il y a donc le risque qu'ils reviennent. Il faut par conséquent trouver des endroits alternatifs où ils puissent aller.
Mais ce retard pris dans la lutte contre les inondations revêt également des causes plus politiques. C'est ce qu'a démontré Stephen Apia-Tachi, chercheur spécialisé dans la planification urbaine et environnementale.
Si vous voulez construire en zone humide, vous devez normalement obtenir une permission du Parlement. Vous n'êtes pas non plus censé construire à moins de 30 mètres d'une zone humide. Tout cela n'est pas respecté. Nous avons donc de bonnes lois qui répondent aux critères internationaux. Mais la vérité est qu'elles ne sont pas appliquées. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui.
La conséquence, selon le chercheur, de litiges de propriété et d'institutions souffrant d'un grave manque de moyens. Autant de problèmes à résoudre pour que la capitale du Ghana cesse un jour de se faire submerger. Victor Cariou, Accra, RFI.
RFI à Accra, où il est actuellement 18h52. Et on accueille Case Loom pour la chronique musique. Bonsoir Case.
Bonsoir Zéphirin.
Avec la programmation musicale de RFI, vous avez jeté votre dévolu sur l'une des têtes montantes de la scène musicale sénégalaise. Il s'agit du rappeur Zo Flame.
Et c'est sans conteste l'envol d'un artiste qui sort du lot et qui ne passe pas par quatre chemins pour nous délivrer son message.
Yoro li ñoo di yarul mané togal né xol mu ci ko buti souf franchement non bokuma ñi jaaw mi ti jaaw rew jaaw fa tay fatal jaaw mi ti jaaw rew jaaw fa tay fatal jaaw
Bien. Le discours a l'air plutôt direct et sans concession. Quel est ce titre et que nous raconte Zo Flame dans AYKM?
AYKM, c'est l'acronyme, de Adonai Al-Komom, ce qui veut dire le monde appartient à Dieu. Et dans l'extrait que nous avons écouté, il nous explique qu'une fois l'homme installé, ce monde est devenu plus tranchant et les échanges plus durs. Son rap, c'est un moyen de sensibiliser les plus fragiles, de toucher les cœurs et de faire résonner sa musique à un public large, qui a envie de se divertir et en même temps de rester en lien avec les réalités qui touchent les jeunes Sénégalais, comme dans Thug Love, où il explique à une jeune fille comment il l'aime.
Alors lorsqu'on entend ces quelques notes... Poluma ñu dem paré na pour jox le lepp bu baye xel ci waxu nit yi mag yow dund ak dé tanal la ci dëgg yori katen sama frame. Voilà, effectivement, quand on entend ces quelques notes et la manière dont il rappe, on sent tout de suite que le flow et le fond nous racontent quelque chose.
Exactement, le fond et le flow, ce sont les deux piliers de sa signature musicale. Alors si sa musique drill nous rappelle son goût prononcé pour ce style rap venu tout droit du Royaume-Uni, il n'en reste pas moins attaché à son mbalakh et distille son message.
Dans... Hey, tu veux du pralis ? On n'a pas les moyens. Je veux sortir, vas-y. Nous on a pas les moyens. Hey hey, colo colo, get the raps. Colo colo, my guy. Hey colo colo, see me life. Hey money colo colo, but can't on a pas les moyens.
wanna party. She wanna party more.
Eh bien, ça, c'est une chanson introspective abordant donc les défis économiques.
Exactement, ils le disent souvent dans la chanson « Amonio Khalis, nous n'avons pas d'argent ». Autant de morceaux comme ça qui témoignent de sa diversité artistique et de sa capacité à toucher tout le monde et des sonorités comme dans « Sampurek » aux accents « Dancehall ».
Hey, kuta chul, nujol sohol, hey, dugol chizo flamulay, begol, hey, kuta chul, nujol sohol.
Et voilà, c'est toute sa discographie qui nous plaît. Et dans la playlist de RFI de ce mois-ci, c'est ce titre qui nous a tapé dans l'oreille, Zéphirin. C'est cette combinaison musicale, pardon, avec la star du moment, H The Best. Ça s'appelle Iyaou et ça nous plaît.
Merci beaucoup, Case Loom. Nous sommes chanceux de compter cet artiste sorti des radars dans la playlist RFI du mois de mai. Vous pouvez retrouver, bien sûr, la playlist RFI sur le site rfi.fr/musique et sur toutes les plateformes d'écoute musicale. Merci beaucoup, Case Loom.
Merci, Zéphirin.
Avec Zo et H, chaque son c'est un 10 sur 10, on est 7 sur 7, d'ailleurs 4-4. Ok, donc y'a comme lolololololol, on est ragué. Bougie force, y'a joué, bédé, kéna, et ça, non, n'a rien, n'a rien, ça, man, c'est. Y'a le air, flow, bédé, tout le lol, non, nous d'un cas forcé. Chico, l'on y toque, de la harba, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a
Ben les limites, l'année en mini sky. Un pied sur terre, mais son yang fly fly. Tous les jours, je suis en mode pétard. Je peux pas me comparer avec cette bâtard. Le mignon, il est job boupès. Gagne quand tu souffres, mon intégré est pès. Le mignon, il est job boupès. Gagne quand tu souffres, mon intégré est pès. Yeah. J'ai le flow, skills, technique. A mon RD, d'où mini cash guy. Fuck, mettez vous plus là, sur le même jet en guy. Derrière le wool, dans mon IY. Like, c'est Fred Kirk.
Yo, une chanson. Cadeau pour vous.
Merci,
cher Romain.
Merci beaucoup, Zéphirin Quadio. Vous revenez dans. Allez, 32 minutes 45 pour la deuxième édition d'Afrique Soir de ce lundi. D'ici là, il y a Clotilde Dumay qui est en régie, qui va bientôt entrer en scène pour le journal de 19h temps universel. Et puis juste après, son décryptage, où elle parlera ce soir de l'or. L'or atteint des records. Pourquoi dans un tel contexte d'incertitude économique? Eh bien, réponse à suivre. Et puis après la deuxième édition d'Afrique Soir, dans 40 minutes, ce sera le grand reportage Trump à la Maison Blanche à l'approche des 100 jours. Impact particulier pour l'Afrique australe, le grand reportage qui ce soir sera en Afrique du Sud. Voilà, restez à l'écoute, ne bougez surtout pas, la session d'info se poursuit sur RFI, la session d'info soirée évidemment.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
l'art thérapie, la création qui soigne.
Mercredi.
100 jours de Trump à la Maison Blanche, quelles conséquences pour la santé?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vivez sur RFI les demi-finales de la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Comme l'an passé, le PSG est dans le dernier carré de la Ligue des Champions et cette fois, après Liverpool et Aston Villa, c'est Arsenal qui est sur sa route. Première manche à l'Emirates, sous les Gunners, ça avait été impressionnant face au Real Madrid. Arsenal-PSG, demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce sera à vivre ce mardi en direct et en intégralité sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.
Pourquoi RFI dit ça? Posez vos questions. Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 19h41 sur RFI.